Chapitre 11. Le témoignage au Fils de Dieu. Les trois chapitres qui précèdent montrent le rejet complet de Christ par la nation juive. Ce rejet devient l'occasion de manifester que l'œuvre présente de Christ au milieu d'Israël était d'accomplir le conseil du Père en appelant ses propres brebis hors de la bergerie juive afin de les introduire dans la nouvelle compagnie chrétienne qui allait être formée sur la terre. Les chapitres 11 et 12 présentent la manière pleine de grâce dont ceux qui forment la nouvelle compagnie sont employés pour révéler les gloires de Christ comme Fils de Dieu, Fils de David et Fils de l'homme. Ce triple témoignage final aux gloires de Christ laisse sans excuse le monde qui le rejette. Au chapitre 11, l'Esprit de Dieu a consigné l'histoire touchante de Lazare et des deux sœurs pour rendre témoignage à la gloire de Jésus comme Fils de Dieu. Dans les voies parfaites de Dieu, les peines des siens vont servir à rehausser la splendeur de la personne du Fils et à les couvrir eux-mêmes de bénédictions. Versets 1 à 5. Citation de l'Écriture. Or, il y avait un certain homme malade, Lazare, de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare, le malade, était le frère. Les sœurs donc envoyèrent vers lui, disant « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Fin de citation. La scène commence à Béthanie, dans le foyer d'un certain homme nommé Lazare, qui est malade. L'endroit est mentionné comme étant le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Aux yeux de Dieu, une ville se signale par les saints qui y habitent. Puis, l'amour et l'intelligence de Marie sont certifiés. En effet, il nous est rappelé qu'il s'agit de la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maladie s'est introduite dans cette maison où Christ est apprécié. Lazare, le frère de Marie, en est frappé. La famille de Béthanie avait si souvent expérimenté l'amour de Jésus qu'au jour de l'épreuve, elle fait appel à cet amour, dans la confiance que celui-ci produit. Le message envoyé est très beau. « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Les sœurs ne demandent pas au Seigneur de venir. Elles ne lui suggèrent pas non plus de guérir leur frère. Se confiant simplement dans l'amour du Seigneur, elles placent leur peine devant lui. Elles n'invoquent ni leur amour, ni celui de Lazare pour le Seigneur, mais allèguent l'amour du Seigneur pour Lazare. Leur confiance dans le Seigneur et son amour est telle qu'ayant exposé leur épreuve et fait appel à son amour, elles savent qu'elles peuvent se remettre en toute sécurité entre ses mains. Le Seigneur se plaît à honorer une telle confiance. Tout de suite, cela lui donne l'occasion de dire que cette maladie est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le diable cherche bien à se servir de nos épreuves pour produire des murmures et des pensées qui déshonorent Dieu. Le Seigneur les emploie pour nous amener à nous confier en lui, et comme une occasion de manifester son amour avec une telle tendresse qu'il est glorifié tandis que nous sommes bénis. La confiance des sœurs était bien placée, car nous lisons aussitôt « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». En outre, cette déclaration comporte un riche encouragement pour nos cœurs. Il y avait eu un moment où le Seigneur avait approuvé Marie dans son choix et repris Marthe pour ses soucis. Dans cette scène de nouveau, l'Esprit appelle particulièrement l'attention sur Marie et son amour plein d'abnégation. Devons-nous alors en conclure que le Seigneur aimait Marie plus que Marthe? Une telle pensée est corrigée par ce passage qui, en relation avec l'amour du Seigneur, place Marthe en premier et la mentionne spécialement par son nom. Il nous est ainsi accordé de voir que s'il y a une différence dans l'approbation du Seigneur à l'égard des deux sœurs, il n'en existe aucune dans son amour envers elles. Son approbation découle de notre attitude. Son amour jaillit de lui-même. Nous savons parfaitement bien qu'il n'est pas indifférent à notre amour, mais nul défaut dans notre amour ou dans notre manière d'agir n'affaiblira son amour. Versets 6 à 16. La voie parfaite de l'amour divin. Citation de l'Écriture. Après donc qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis, après cela, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, les Juifs cherchaient tout à l'heure à te lapider, et tu y vas encore ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche 2 jours, il ne bronche pas, car il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche 2 nuits, il bronche, car la lumière n'est pas en lui. » Il dit ces choses, et après cela il leur dit, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais pour l'éveiller. » Les disciples donc lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du dormir du sommeil. Jésus leur dit donc alors ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, donc, appelé Didyme, dit à ses condisciples, « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Fin de citation. L'amour se plaît à être sollicité et ne décevra pas l'appel confiant de la foi. En même temps, l'amour divin agit selon la sagesse divine. Il opère parfois d'une manière qui paraît tout à fait étrange et contraire aux voies de l'amour et de la prudence des hommes. Ainsi nous lisons, après donc qu'il eut entendu que Lazare était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. L'amour humain serait allé immédiatement. La prudence humaine ne serait jamais allée. Que ce soit en tardant ou en allant, Jésus agit non selon les pensées de la nature, mais dans la dépendance de la volonté du Père et conformément à celle-ci. Son cœur tendre ne peut pas rester indifférent aux peines des siens, mais tout en les bénissant et en répondant à leurs appels, il a toujours devant lui la gloire du Père et marche à la lumière de sa volonté. Nous voyons ainsi le Seigneur agir avec cette sagesse parfaite qui bénit les siens et maintient néanmoins la gloire du Père. Il n'en va pas différemment aujourd'hui, car si le Seigneur a glorifié le Père dans sa marche et à la croix, maintenant, de sa place dans la gloire, il glorifie encore le Père en réponse à sa propre prière « Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Il bénit encore les siens, il répond encore quand ils font appel à son amour, mais il le fait d'une manière telle qu'en même temps que nous sommes bénis, le Père est glorifié. Nous pouvons y voir la solution de plus d'un épisode étrange de nos vies. Ne pensant qu'à notre soulagement présent, nous nous étonnons peut-être de quelque curieux concours de circonstances, nous nous demandons pourquoi une maladie nous frappe ou pourquoi telle épreuve se prolonge. Si nous avions plus clairement en vue la gloire du Père, nous comprendrions mieux ces incidents apparemment étranges. Ne sachant pas apprécier les motifs qui guidaient le Seigneur, les disciples s'étonnent, non pas tant de ce qu'il tarde, mais de sa décision de retourner dans le pays où, si peu auparavant, les Juifs avaient cherché à le lapider. Il regardait aux circonstances et parlait selon la lumière de la prudence naturelle. Le Seigneur marchait à la lumière de la volonté du Père, aussi ne bronchait-il pas dans son chemin. Quant à nous, regardant seulement aux circonstances, il nous arrive de trébucher et de nous égarer. Notre chemin est incertain et sombre. Nous ne marcherons dans la lumière que si nous exposons toutes nos difficultés au Seigneur, ne regardant qu'à lui et cherchant à marcher selon sa volonté. Marchant dans la lumière de la volonté du Père, le Seigneur n'avait aucune crainte des Juifs et du mal qu'il pourrait faire. Il pensait non pas lui-même, mais avait devant lui uniquement de servir les autres en amour selon la volonté du Père. Ainsi il peut dire aux disciples, « Je vais pour l'éveiller. » Le Seigneur répond à la confusion des disciples dans leurs pensées en déclarant clairement « Lazare est mort ». Puis nous apprenons que si le Seigneur avait attendu 2 jours, c'était pour la bénédiction de ses disciples. Il dit en effet « Je me réjouis, à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » la douleur écrasante qui avait frappé les deux sœurs ne deviendrait pas seulement une occasion de gloire pour le père et de bénédiction pour les sœurs affligées, mais conduirait à la bénédiction d'autres. Comme nous-mêmes, souvent, Thomas ne parvient pas à s'élever au-dessus des circonstances. Il dit « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Le Seigneur a la vie devant lui. Thomas ne peut entrevoir que la mort. Marchant dans la lumière du Père, le Seigneur voit la vie au-delà de la mort. Marchant sous la puissance des circonstances, Thomas ne peut rien discerner d'autre que la mort comme l'aboutissement de la vie. Toutefois, même dans l'obscurité de son chemin, ses paroles montrent que son amour s'accroche à Christ, car il dit « Allons-y, nous aussi, afin que nous mourions avec lui. » Dans son amour, Thomas préférerait mourir avec lui que vivre sans lui. On peut être plus intelligent que Thomas, mais avec une affection moindre. Après avoir vu la voie de l'amour divin, nous allons découvrir maintenant la voie parfaite des compassions divines. Versets 17 à 37. Citation de l'Écriture. Jésus étant donc arrivé, trouva qu'il était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Or Béthanie était près de Jérusalem, à une distance d'environ 15 stades. Et plusieurs d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Marthe donc, quand elle eut ouï dire que Jésus venait, alla au-devant de lui. Mais Marie se tenait assise dans la maison. Marthe donc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera en la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Moi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Marie, sa sœur, disant, « Le Maître est venu, et il t'appelle. » Celle-ci, aussitôt qu'elle l'eut entendu, se lève promptement et s'en vient à lui. Or Jésus n'était pas encore arrivé dans le village, mais il était au lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs donc, qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, ayant vu que Marie s'était levée promptement et était sortie, la suivirent, disant « Elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. » Marie, donc, quand elle fut venue là où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, se jeta à ses pieds, lui disant « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, donc, quand il l'a vue pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit, et se troubla, et dit « « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui disent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs donc dirent, « Voyez comme il l'affectionnait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Celui-ci qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Fin de citation. Quand enfin Jésus arriva à Béthanie, il trouva que la mort avait accompli son œuvre. Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. La maison de Marthe et de Marie était plongée dans le deuil. Et de nombreux Juifs étaient venus auprès des sœurs pour les consoler de leur perte. Débordantes d'activité et préoccupées lors de la visite précédente du Seigneur, Marthe se montre agitée et distraite devant cette grande douleur. Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur pour écouter sa parole, peut maintenant attendre sa venue paisiblement assise dans la maison. Partie à la rencontre du Seigneur, Marthe reconnaît devant lui que s'il avait été présent, son frère ne serait pas mort. Sa foi savait qu'il aurait pu rendre la santé à Lazare, mais n'allait pas jusqu'à croire que le Seigneur pourrait ramener son frère à la vie. Pourtant, consciente de la faveur dans laquelle le Seigneur se tenait devant Dieu, elle peut dire « Mais même maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Le Seigneur lui fait une déclaration claire, afin d'encourager sa foi à faire usage des ressources qui se trouvaient en lui. Il dit « Ton frère ressuscitera ». La foi de Marthe sait qu'il y aura une résurrection finale et que son frère ressuscitera au dernier jour. Comme nous, elle trouve plus facile d'avoir foi en ce que Dieu fera à une date lointaine que de croire à ce que Dieu peut faire dans le moment présent. Dans sa grâce, le Seigneur fait une nouvelle déclaration à Marthe, afin de diriger sa foi vers lui comme une ressource actuelle. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Celui qui a la puissance de la résurrection et qui est la vie se tient devant elle. Non seulement il ressuscitera les morts, mais il communique la vie à celui qui croit. La vie éternelle. Tous ressusciteront, mais seul le croyant ressuscitera en résurrection de vie. Les incrédules sortiront des sépulcres en résurrection de jugement. Chapitre 5, verset 29. La vie de résurrection est une vie au-delà de la puissance de la mort, du péché et du jugement. Ici, le Seigneur parle uniquement des croyants. La puissance de résurrection était présente dans la personne du Fils. Lorsqu'il exercera cette puissance, le croyant en Jésus, même s'il est mort, vivra. Le croyant qui sera vivant à ce moment ne mourra pas. Le Seigneur allait donner une preuve de cette puissance en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Le Seigneur interpelle Marthe en lui demandant « Crois-tu cela ?» Marthe répond par une confession de foi générale, juste en soi et certifiée par les Écritures, psaume 2, mais elle reste bien loin de la révélation nouvelle du Seigneur, selon laquelle, dans sa personne comme fils, la résurrection et la vie étaient là. À ce point de l'entretien, Marthe semble réaliser que le Seigneur parlait de choses qui dépassaient son intelligence spirituelle, des choses que comprendrait mieux Marie, qui s'était tenue assise au pied du Seigneur et avait écouté sa parole. Aussi, elle s'en alla et appela secrètement Marie, lui disant que le Maître était venu et l'appelait. Quand elle entend que le Maître l'avait appelée, Marie sort promptement à sa rencontre. Elle savait rester assise et attendre le Seigneur, et elle savait comment agir à sa parole. Se méprenant sur son comportement, les Juifs disent « Elle s'en va au sépulcre pour y pleurer ». Elle faisait ce qui valait infiniment mieux, ce que seule la foi peut faire. Elle allait pleurer aux pieds de Jésus. Pleurer sur la tombe d'un bien-aimé, même le monde peut le faire. Mais il n'en retire aucun soulagement. Les larmes ne ramèneront pas nos morts. Pleurer aux pieds de Jésus, c'est trouver le réconfort de son amour, car nous pleurons aux pieds de celui qui, au temps propre, ressuscitera nos morts et qui, en attendant, console nos cœurs. Quand donc Marie fut venue là où était Jésus, et qu'elle l'eut vu, elle se jeta à ses pieds. Précédemment, elle s'était assise à ses pieds pour apprendre de lui, et ainsi, dans les jours d'affliction, elle peut être à ses pieds pour y pleurer. Et il en résultera qu'un peu plus tard, nous la trouverons à ses pieds comme une adoratrice. Chapitre 12, verset 3. Assise à ses pieds pour écouter ses paroles, Marie avait appris à connaître son amour et sa grâce. Et maintenant qu'elle est dans la peine, elle va puiser à cet amour et à cette grâce. Enhardie par ce qu'elle avait appris de lui, elle épanche sa douleur à ses pieds. Marie, comme Marthe, ne savait pas grand-chose de la puissance de la vie en résurrection, mais elle connaît le cœur de Jésus. Elle a conscience de la douleur de son propre cœur et elle épanche cette douleur devant le Seigneur. Marthe pouvait parler avec le Seigneur, mais Marie pleure avec le Seigneur. La conversation de Marthe avec le Seigneur suscite la révélation de la pensée du Seigneur à l'égard des siens, endormis ou vivants. Les larmes de Marie permettent de montrer le cœur du Seigneur. Nous voyons que Jésus donc, quand il la vit pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle pleurer, frémit en son esprit et se troubla. Plus encore, il mêla ses larmes aux leurs. En effet, nous lisons « Jésus pleura ». Était-ce pour Lazare qu'il pleurait? Certainement pas, car n'allait-il pas le ressusciter d'entre les morts? C'était la peine des vivants qui faisait couler ses larmes, et non pas la perte du mort. Le Créateur se trouve au milieu de ces pauvres créatures déchues qui se sont ruinées elles-mêmes par le péché. Et la mort, les gages du péché, est entrée dans la maison, a rompu les liens les plus chers et brisé les cœurs. Le poids de la mort pèse lourdement sur leurs esprits, et le Créateur s'approche des siens en amour et en parfaite sympathie pour pleurer avec eux. Pourtant, combien peu ces personnes dans le deuil comprenaient la cause de ces larmes. Les Juifs disent « Voyez comme ils l'affectionnaient ». Certes, le Seigneur aimait Lazare, toutefois l'amour pour le mort n'était pas la cause de ses larmes. C'était l'amour pour les vivants qui le faisait pleurer. Le trouble profond de son esprit, ses larmes exprimaient sa peine pour la race humaine écrasée sous le poids de la mort, n'ayant aucune puissance pour soulager sa douleur et sans foi pour faire usage de la puissance présente dans la personne du Fils de Dieu. Ils étaient tous sous le poids de la mort. Lazare gisait dans le sépulcre, la mort accomplissant déjà son œuvre corruptrice. Marthe et Marie déclarent toutes les deux « Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et les Juifs disent « Celui-ci n'aurait-il pas pu faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Aucun ne réalisait que celui qui est la résurrection et la vie était au milieu d'eux. Après avoir manifesté la compassion divine, le Seigneur agit maintenant selon la puissance divine. Versets 38 à 44. Le Seigneur agissant maintenant selon la puissance divine. Citation de l'Écriture. Jésus donc, frémissant encore en lui-même, vient au sépulcre. Or c'était une grotte et il y avait une pierre dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il est là depuis 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que toi tu m'as envoyé. » Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, « Lazare, sors dehors !» Et le mort sortit, ayant les pieds et les mains liés de bandes. Et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Fin de citation. Le commandement du Seigneur d'ôter la pierre du sépulcre ne constitue qu'une nouvelle occasion de montrer l'incrédulité de Marthe. Elle réalise que la corruption a fait son œuvre, accentuant ainsi l'état désespéré du cas aux yeux de la nature et de la raison. Mais tout ce poids de la mort sur l'homme et l'incrédulité naturelle du cœur ne font qu'ajouter à la manifestation de la gloire de Dieu. Quand tout espoir est complètement perdu du côté de l'homme, Dieu agit pour sa propre gloire. Avant de ressusciter Lazare, le Seigneur reconnaît publiquement le Père. Il ne veut pas exercer cette grande puissance en résurrection pour se glorifier lui-même. Il prend soin de montrer au monde que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la soumission au Père et la dépendance de lui, comme l'envoyé du Père et pour la gloire du Père. Puis, criant à haute voix, il commande à Lazare de sortir, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Seul le Seigneur pouvait ressusciter quelqu'un d'entre les morts, bien que d'autres puissent être employés pour libérer des bandes dans lesquelles le judaïsme a enveloppé les hommes. 3 vérités principales se dégagent clairement, pour notre encouragement, du deuil qui s'est abattu sur le foyer de Béthanie. Premièrement, les épreuves qui frappent les enfants de Dieu deviennent une occasion de révéler la gloire de Dieu. Dans un sens spécial, grâce à la mort de Lazare, la splendeur de Dieu a pu briller dans la puissance d'une vie de résurrection. Au cours des âges, la puissance humaine s'est souvent exprimée dans l'invention d'instruments étonnants destinés à tuer des hommes. Jamais personne n'a été ramené dans la mort. La gloire de Dieu se manifeste en ressuscitant d'entre les morts. Déjà, le Seigneur avait ressuscité la fille de Jaïrus, tout de suite après sa mort. Puis, il avait déployé une puissance plus remarquable en ressuscitant le fils de la veuve de Naïn, qu'on portait sur sa bière afin de l'ensevelir. Mais la résurrection de Lazare, sortant du sépulcre alors que la corruption avait déjà fait son œuvre sur son corps, est la manifestation la plus élevée de la puissance divine. Deuxièmement, la douleur est une occasion non seulement de glorifier Dieu, mais aussi de bénir les saints. Les deux sœurs acquièrent une connaissance plus intime du Seigneur. Elles auraient certainement pu dire « Nous savions que le Seigneur nous aimait, mais, avant ce deuil, nous ignorions que l'amour dont il nous aimait était si personnel et si profond qu'il l'a amené à venir chez nous, à parler, marcher et pleurer avec nous au jour de notre grande affliction. » Troisièmement, la gloire de Dieu ayant été manifestée et la bénédiction des saints assurée, nous voyons la puissance et la miséricorde intervenir pour répondre aux besoins et ôter la souffrance. Et même si aujourd'hui la douleur particulière du deuil n'est pas enlevée en ce que nos morts nous seraient rendus, la grâce est là pour soutenir les affligés jusqu'au jour de gloire. Versets 45 à 57. Effet sur le monde de cette merveilleuse révélation de la gloire du Fils de Dieu. Citation de l'Écriture. Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent auprès des pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens donc assemblèrent un sanhédrin et dirent « Que faisons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons ainsi faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront et ôteront et notre lieu et notre nation. » Et l'un d'entre eux, appelé Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous ne savez rien, ni ne considérez qu'il nous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Depuis ce jour-là, donc, ils consultèrent ensemble pour le faire mourir. Jésus donc ne marcha plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là, dans la contrée qui est près du désert, en une ville appelée Éphraïm. Et il séjourna là avec les disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et plusieurs montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque afin de se purifier. Ils cherchaient donc Jésus et se disaient l'un à l'autre comme ils étaient dans le temple, « Que vous semble ? Pensez-vous qu'il ne viendra point à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on le prît. Fin de citation. D'abord, plusieurs d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Ce n'est sans doute pas sans raison que seul le nom de Marie est mentionné en relation avec les Juifs qui crurent, tandis que, lorsqu'il est parlé des Juifs qui étaient accourus pour consoler les cœurs, nous lisons qu'ils étaient venus auprès de Marthe et de Marie. Verset 19. Nous pouvons sans doute en déduire que c'est le témoignage de la vie et de la conduite de Marie qui a impressionné ces Juifs et les a conduits à considérer ce que Jésus avait fait, et ainsi à croire en lui. Si plusieurs crurent, la haine des autres prit une telle ampleur qu'ils s'en allaient rapporter ce que Jésus avait fait à ceux qui cherchaient à le mettre à mort. Ce rapport amène les principaux sacrificateurs et les pharisiens à assembler un sanhédrin afin de chercher comment ils pourraient annuler le témoignage de ces miracles incontestables. La conscience non exercée par leurs péchés et le cœur insensible à l'amour de Christ, ils redoutent l'effet de ces grands miracles sur d'autres. Sans le vouloir, ils rendent témoignage à la puissance de Jésus en déclarant « Si nous le laissons ainsi faire, tous croiront en lui. » Ne pensant qu'à leur propre position et à leur importance nationale, ils craignent que l'hostilité des Romains ne se manifeste si des âmes sont attirées à Christ et le suivent. Dans ce qui suit, il nous est accordé de voir qu'en dépit de toutes les délibérations d'hommes méchants, Dieu exécute ses desseins. Et pour l'accomplissement de ceci, Jésus devait mourir. Dieu se sert de ce souverain sacrificateur méchant pour annoncer prophétiquement la mort de Christ. mettant de côté toute prétention à la justice et agissant uniquement par opportunisme, Caïphe déclare qu'il valait mieux que Jésus meure et que la nation entière ne périsse pas, et cela malgré ce qu'il avait pu faire ou ce que le peuple pouvait penser de lui. Pour Caïphe, comme trop souvent pour les politiciens de ce monde, il ne s'agit pas de ce qui est juste, mais de ce qui est opportun ou avantageux. Cet homme est prêt à crucifier un juste afin de préserver si possible la position d'une nation coupable. Tel est le conseil d'un méchant. Jésus doit mourir pour la nation. Mais, quoique pour des raisons très différentes de celles que l'égoïsme de l'homme avançait, Jésus devait aussi mourir selon le conseil défini et la préconnaissance de Dieu. Si Jésus doit mourir, ce n'est pas pour empêcher qu'une nation méchante soit dispersée, mais afin de rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Il était donc vrai que Jésus allait mourir, non pas toutefois pour la nation, mais pour tout enfant de la famille de Dieu. De même que les brebis de Christ n'étaient pas uniquement celles qui sortaient de la bergerie juive, les enfants de Dieu ne proviennent pas seulement de la famille d'Israël. Par la mort de Christ, une grande compagnie de pécheurs d'entre les Juifs et les Gentils serait convertie et deviendrait des enfants de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Et ils ne seraient pas laissés comme des éléments isolés, mais rassemblés en un pour former la seule famille de Dieu. Selon son habitude, Jean voit les chrétiens comme un troupeau dépendant du berger et une famille sous un père. Paul les considère comme composant un corps dont Christ est la tête et une compagnie dont le Seigneur est le lien. Le plan odieux de Caïphe reçoit l'approbation des chefs de la nation qui, depuis ce jour-là, complotent pour faire mourir Jésus. Ils deviennent les instruments méchants employés pour exécuter le conseil de Dieu. En attendant que son heure soit venue, Jésus s'en alla dans une contrée près du désert et y séjourna avec ses disciples. À maintes reprises au cours de cet évangile, nous voyons le Seigneur prendre la place en dehors. Il s'avance certes pour rendre témoignage, mais toujours comme l'homme séparé qui se tient à l'écart de la corruption du judaïsme. Chapitre 1, verset 28, 6, verset 15, 7, verset 1, 10, verset 39 à 42, 11, verset 54. Bien que Christ soit dehors, le monde maintient avec suffisance ses fêtes religieuses, faisant des spéculations au sujet de Jésus, tandis que ses chefs, dans leur hostilité, donnent des ordres futiles à l'égard de Jésus. Le monde d'aujourd'hui n'a pas changé. Christ est toujours dehors, dans la place d'opprobre. La chrétienté corrompue ferme de plus en plus sa porte à Christ, tout en se raccrochant à ses fêtes et cérémonies religieuses et en raisonnant sur la personne de Christ. Pendant ce temps, le monde politique reste soit totalement indifférent à Christ, soit ouvertement hostile, tout en cherchant à faire disparaître le nom de Jésus par de vains ordres.